La technologie post-COVID-19. Une étude sur le télétravail, Skype, des applications pour apprendre d'autres langues. Toontastic, la valeur de revente Android. Pixiu, gadget, parano, théorie du complot, écologie et petites réflexions.
Vous avez rien compris? Bienvenue dans Éclectique. Hey, bonjour, bienvenue à Éclectique. Éclectique, c'est votre podcast sur les technologies, l'écologie, la société et les applications. Bref, tous les sujets que j'aime et que j'aime transmettre ou partager avec vous. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs trucs. On va parler évidemment de technologie. On va rester un petit peu dans l'actualité du COVID. Au moment où j'enregistre cet épisode, ben, on est encore en confinement. Alors, le moment où vous allez l'écouter, je sais pas si ça va être ouvert, mais j'en serais très fort surpris. Alors, on va en parler. On va en parler de certains aspects. On va parler d'économie, gadgets. On va parler de parano, paranoïaque de gens qu'ils sont. On va parler, évidemment, de théorie du complot. C'est important de bien s'informer en ce moment et un petit guide sur comment, démystifier les théories du complot, comment démystifier ou, en fait, parler à ces personnes qui croient mordicus à ces théories. On va parler d'écologie et puis après, je vais vous lire un petit texte, une petite réflexion que j'ai trouvée fort intéressante dans le contexte. Alors, on va débuter maintenant. On va débuter avec un très bon texte que j'ai trouvé sur zdnet.fr. Alors, le titre de cet article, c'est « Cette façon de transformer l'industrie des technologies et des services ». Ça parle de, en fait, ce qui va changer ou ce qui devrait changer après la crise du COVID en ce moment. Alors, le premier aspect dans cet article, c'est une pause sur la 5G. Alors, effectivement, la 5G doit se déployer dans certains pays, devait se déployer assez rapidement dans certains pays. Sur certains appareils aussi, la 5G a été activée. Mais c'est sûr que ça va mettre en pause ça. Ça va mettre en pause le déploiement parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les compagnies vont peut-être pas avoir les ressources suffisantes dans les prochains mois. On sera pas de cachette. On devrait commencer à voir la lumière au bout du tunnel d'ici 2 à 3 ans, ce qui fait que ça va mettre en pause beaucoup de trucs. La 5G va en faire partie. En tout cas, j'en suis convaincu, tout comme dans l'article. On va peut-être probablement travailler plus sur l'évolution du 4G, 4G+, pour utiliser les antennes qu'on a déjà là maintenant. Alors, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant de partager ensemble. Que pensez-vous du déploiement de la 5G? Est-ce que vous pensez qu'elle va encore arriver vite ou cette technologie risque de péricliter? Deuxième truc qu'on se rend compte avec le COVID, c'est que la bande passante, ça devient une ressource assez précieuse dans un moment où on a besoin de plus en plus de ce réseau interconnecté qu'on appelle Internet et qui, une chance qu'on l'a pour vrai. Dites-vous que si le COVID était arrivé il y a 15-20 ans, il y aurait eu juste le téléphone et peut-être que les bandes n'auraient pas suffi, peut-être que les forfaits n'auraient pas suffi. Bref, maintenant, on peut faire de la visio, on peut voir les gens, on peut continuer à faire des achats, on peut continuer à avoir une espèce d'économie de la culture. Évidemment, on parle des Netflix, Apple TV, YouTube, mais il reste qu'il y a des artistes qui commencent à faire des événements, en fait, sur Facebook, live, sur YouTube, et ainsi de suite. Alors, ils commencent à avoir d'autres choses qui se développent. Alors, on se rend compte que la bande passante, c'est une ressource précieuse, mais il va falloir la conserver sans la gaspiller. Alors ça, c'est vraiment un point qui est assez intéressant dans cet article-là. Évidemment, Internet ne serait pas aussi utile si le cloud, l'info nuagique et ses infrastructures n'avaient pas été déployées dans les 10 dernières années. Alors là, je veux parler évidemment qu'on a Internet, on a des sites web, c'est intéressant, mais grâce au cloud computing, à l'info nuagique, on est capable maintenant de travailler beaucoup plus efficacement que juste créer des choses dans son coin et de les envoyer sur le réseau Internet. Là, on peut travailler ensemble. Alors, évidemment, il y a des G Suite de ce monde, il y a des Office 365, il y a toutes sortes d'outils maintenant qui font que le développement ou le travail est encore possible et avec une certaine productivité relative. Alors ça, évidemment, ça devient une ressource essentiel, tout comme la bande passante. Et on est bien content que ça arrive. On va repenser probablement, quatrième point, on va repenser probablement l'utilisation de certains appareils. En fait, le titre, c'est « Repenser à priorité dans le domaine du form factor pour les professionnels ou le grand public ». Oui, on a dans les 11 dernières années pensé à la mobilité. On a accentué ça. Encore faut-il que tous les services soient bien adaptés à la mobilité, soient bien adaptés à des appareils plus nomades, plus légers, pour lesquels la bande passante peut être difficile. Alors, ces appareils mobiles-là sont vraiment bien adaptés. À titre d'exemple, on peut acheter maintenant un appareil qui comprend le clavier, les caméras, l'écran, tout ça, pour moins de 70 €. On parle d'une tablette bas de gamme, oui, certes, mais c'est quand même un lien vers la société quand même. Et il va falloir vraiment repenser certains form factors de certains sites, de certaines applications pour qu'elles soient beaucoup moins gourmandes. On parlait de Facebook, Facebook Messenger, qui avait développé dans les pays en voie de développement certaines applications plus légères. Ben, on se rend compte que maintenant, tout devrait être plus léger quand même, parce que tout le monde n'est pas bien équipé, comme vous et moi qui m'écoutez probablement, pour consommer. Tu sais, à titre d'exemple, un email pèse en moyenne 70 kilooctets. C'est à peu près ce genre de mémoire-là qu'on a eu besoin pour envoyer des hommes sur la Lune. Et maintenant, une page web pèse 100 fois ça, ce poids-là, 1000 fois ça maintenant sur certaines pages web. Alors, faut vraiment repenser ça pour vraiment prioriser ce qu'on veut envoyer. Évidemment, là-dedans, il y a tout ce qui est streaming qui prend beaucoup de bande passante. Tu sais, quand vous êtes sur YouTube, peut-être vous voyez certains changements qui sont apparus sur Facebook et ainsi de suite. Ben, c'est ça, de prioriser le form factor, de prioriser des choses qui soient utiles pour les utilisateurs. Si tout le monde utilisait des appareils mobiles, ben la bande passante, elle pourrait diminuer au lieu des écrans 4K, Netflix et ainsi de suite. Cinquième point, faire plus avec moins et s'accrocher aux anciennes technologies, c'est quelque chose qui va être obligatoire dans les prochains mois, années. On ne peut plus se permettre, économiquement parlant pour certains, d'acheter le dernier iPhone qui va sortir. On l'avait déjà dit, mais aussi la planète en avait besoin. Mais là, on y est obligé. Il va falloir étirer certaines technologies. Il va falloir demander aux fabricants technologiques de demander moins de ressources lorsqu'ils développent. Alors, ça peut être fait de toutes sortes d'axes. Ça peut être que le code soit mieux optimisé. C'est des fois pas si facile ou évident à faire. Va falloir aussi peut-être repenser certaines interfaces. Deutsche Bank a un site pour... je pense que c'est Deutsche Bank. Un site pour faire du voyage, pour réserver des billets de train qui, à la deux versions, il y a un site, son site qui est 7 MB, je pense, la page d'accueil. Et pour réserver le billet de train, il y a une autre page qui est beaucoup plus légère et qui, elle, pèse à peu près 70 kilooctets. On parle de poids là, qui pour un usage, t'sais, juste réserver un billet de train, ça peut paraître anodin, surtout maintenant dans le temps du COVID, mais faire une fonctionnalité avec autant de poids pour la même fonctionnalité, va falloir revoir ça, ce qui va pouvoir peut-être faire perdurer nos technologies. Alors ça, c'est certain que on va avoir à étirer certains trucs, à être en mesure, tu sais, notamment demander à Google, ça peut être juste ça, de demander à Google de, arrête le développement ou en tous les cas, fais attention avec tes opérateurs, en fait, tous ceux qui revendent des téléphones, qui fassent la mise à jour ou que ça soit plus légère ou de les forcer à aller sur Android One, qui est une version d'Android plus légère et qui se met à jour. Il y a toutes sortes de trucs qu'on va pouvoir faire, mais encore faut-il que les fabricants et les manufacturiers emboîtent le pas, ce qui risque, eux, pour eux, de baisser certaines entrées d'argent, hein, parce que si on renouvelle pas les parcs d'iPhone, Apple est moins content. C'est pour ça qu'Apple a commencé à se diversifier dans les services. Google, c'est la même chose, ou d'autres fabricants. Il faut pas se le cacher, il y a des fabricants qui vont mourir après cet épisode du COVID-là. Des entreprises, en fait, pas des gens, des entreprises. Sixième point dans cet article qui a été abordé, c'est la centralisation de la vente et de la distribution alimentaire. Je sais pas vous en Europe, mais nous au Québec, c'était pas encore bien adapté. Ils commençaient à avoir certains services comme Jenny à Montréal, Uber Eats, des choses de ce genre-là pour faire la distribution, mais les commerçants avaient pas emboîté le pas. Alors, il va falloir vraiment comme penser à une certaine centralisation de ces services de distribution alimentaire qui sont vraiment vraiment précieux dans des temps de COVID. Et puis le dernier, ben toujours tout ce qui est en lien avec la vie privée, on l'a vu dans l'actualité, la logistique, la sécurité, la distanciation sociale, nous force à utiliser certaines technologies, mais qui pourraient, en bout de ligne, ben, nous faire mal, nous faire du tort. Exemple, Zoom, qui est une application toujours de visioconférence et qui, ben, finalement, était pas très sécuritaire, pouvait avoir certains risques au niveau, de la confidentialité. Fait que bref, va falloir vraiment plus se questionner, étant donné qu'on est plus dépendant de la technologie, va falloir faire plus attention à, ces égarements technologiques des grands GAFAM. Alors, c'était un peu l'article, c'est un petit peu triste, hein, pour commencer, mais, je dois honnêtement vous dire que je suis pas très joyeux en ce moment. Ça me fait plaisir de faire le podcast, mais j'ai pas la gaieté de cœur de d'habitude. Mais c'est pas grave, on va continuer avec le deuxième élément. Vous savez que j'aime beaucoup Zapier. Zapier, c'est un outil d'automatisation des processus en ligne. Alors, Zapier, c'est un peu, si vous connaissez IFTTT, c'est l'équivalent. C'est quelque chose qui permet d'automatiser des tâches sur Internet. Typiquement, un bon exemple, c'est vous pouvez automatiser des tâches. Si je reçois tel courriel de telle personne, ajoute-moi une tâche automatiquement dans mon outil de rappel. Ça peut être des genres de trucs comme ça d'automatisation que vous pouvez faire. Avec Zapier, c'est un peu plus évolué. Et Zapier a un blog sur la productivité, sur le travail. Et là, ils ont fait une étude concernant le télétravail qui est super intéressante sur 1500 Américains. Alors évidemment, c'est pas ultra, ça donne une tendance, c'est pas un fait exact, mais ça donne quand même une certaine tendance sur certains points. Alors je vais y aller en vrac sur les résultats de cette étude qui a été menée là-dessus. On entend dans l'étude que d'après les recherches qu'ils ont faites, 50% sont pensés au télétravail à domicile, ce qui est assez intéressant parce que pour conserver notre économie, au tout du moins un semblant d'économie. Si 50% ont réussi à faire du télétravail, il reste après ça les services essentiels, nourriture, hôpitaux, et ainsi de suite, qui couvrent un large pourcentage, qui fait qu'en bout de ligne, grâce aux technologies, ben, c'est pas 100% des gens qui sont à terre ou qui ont plus d'emploi. Alors, les Américains, dans cette étude, 65% pensent que leur productivité a augmenté en termes de télétravail. 80% disent qu'ils peuvent mieux gérer leurs interruptions de travail avec leurs collègues. On peut bloquer maintenant vraiment les notifications. Tu sais, quand c'est physiquement à côté de ton bureau, tu peux pas nécessairement faire ça. Mais là, avec des fonctionnalités sur l'iPhone pour bloquer les notifications ou sur macOS, même Windows à ça, c'est quand même plus agréable. 80% des gens aiment pouvoir faire du travail avec la famille dans la journée. Alors moi, je vous dirais que, bien humblement, j'ai de la difficulté à conjuguer ça. On y arrive, hein, on commence à établir certaines routines, mais c'est compliqué avec un jeune enfant, tout du moins. Dans mon cas, je sais pas vous, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. 77% disent que trouver du nouveau du de trouver qui arrive à trouver du temps pour être plus productif en dehors du 9 à 5 habituel. C'est ça, c'est que les plages horaires, on peut les étendre un petit peu plus et on peut probablement avoir des périodes où on travaille, où on est un peu plus productif, ce qui veut dire qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire du 9 à 5 normal. On peut peut-être faire du 7 à 9 heures, puis à travers cette journée-là, trouver des périodes, 21 heures en fait, trouver des périodes où on est un peu plus productif. 74% ne ressentent pas de pression de leur manager, ce qui m'apparaît fort étonnant, surtout pour des Américains. 71% ne ressentent pas le besoin d'avoir à prouver ce qu'ils font. Ça veut dire que les gestionnaires ou les managers aux États-Unis savent maintenant gérer par objectif. C'est sain, mais en tous les cas, c'est très, très prématuré, hein, ces chiffres-là. Faudrait avoir plus de recul, faudrait que ce soit là sur plus longtemps. Là, c'est depuis quelques semaines, depuis le début du COVID, ce qui fait que peut-être que les managers ou les compagnies sont encore sous le choc et ne mettent pas autant de pression à leurs employeurs. Je suis très, très surpris de cette étude-là. 77% disent que leurs managers ne s'attendent pas à ce qu'ils répondent instantanément. On voit une certaine souplesse au niveau des managers, c'est vraiment cool. Une certaine humanité, c'est ce qui est intéressant. Et 72% disent qu'ils ne se présentent pas plus que d'habitude à leurs équipes. Ce qui fait qu'on voit peut-être pas plus le manager que à l'époque où on était au bureau. Ouais, des fois, il y a des gestionnaires fantômes qu'on appelle. Bref, il y a toutes sortes de chiffres qui sont super intéressants dans cette étude-là. Je vous la mets dans les notes de l'émission. Allez faire un petit tour et puis vous allez voir si vous vous reconnaissez par rapport aux Américains. Désolé, j'ai pas parti le bon générique. En fait, pas la bonne virgule. Ça, c'était la bonne virgule. Petit truc, si vous voulez faire de la visioconférence, et j'ai trouvé un... Skype a mis ça en ligne aujourd'hui, c'est d'organiser une audioconférence sur Skype en un clic. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Si vous voulez faire une visio avec une personne rapidement puis qui connaît absolument rien de ça, vous lui dites, garde, je t'envoie un email, je t'envoie le lien, tu cliques là-dessus et tu te connectes, et puis là, on peut faire notre visioconférence. Vraiment chouette de la part de Skype. Même Microsoft, là, dernièrement, aujourd'hui, on est 5 avril, hein, il y a plein de trucs sur Teams public qui arrivent pour que les gens puissent faire de la visioconférence et continuer à travailler. On se rappelle, Skype, c'est la version visioconférence, monsieur, madame, tout le monde. Microsoft Teams, c'est la version plus entreprise. On entend, on voit qu'il y a un mouvement au niveau de la famille vers Microsoft Teams. Peut-être qu'à terme, Skype n'existera plus, mais pour le moment, cette fonctionnalité-là va bien et vous pouvez la retrouver dans les notes de l'émission pour créer rapidement un lien pour pouvoir aller faire de la visioconférence avec quelqu'un. Qui dit télétravail dit peut-être avoir plus de temps, ou en tout cas, tous les cas, être plus tranquille par rapport au bureau pour apprendre des trucs. Alors, je vous ai mis un lien vers un article qui a été fait par Apple sur le iTunes Store, le App Store, en fait, où ils ont recensé plus d'une dizaine d'applications pour apprendre des langues. Je vous la fais suivre parce qu'il y en a certaines qui sont chouettes. Moi, j'utilise Duolingo depuis un an. Yeah, je suis content, j'ai fait mon année complète sans arrêt. Mais il y en a d'autres, il y a Babel, il y a Tandem, il y a Boozoo, il y a Memrise, il y a Drops, dont j'entends parler de plus en plus, Rosetta Stone, Mondly. Bref, c'est un beau ramassis d'applications si vous voulez apprendre des trucs nouvelles maintenant et puis vous voulez tester ça, ben allez-y, ça fait du bien, en tous les cas, ça vous occupe dans ces moments d'isolement peut-être d'apprendre quelque chose de plus. La valeur de revente des téléphones, on en a parlé, j'en ai parlé au début de l'émission, qu'il va falloir faire durer ces appareils un peu plus longtemps. Cette analyse-là est sur le site de Radio-Canada, sur la catégorie, la section techno, et elle dit que même si nos appareils sont de plus en plus... sont bons, sont performants et peuvent être étirés sur le temps, ben leur valeur de revente ne suit pas leur valeur d'usage, on va dire ça comme ça. Dans cette étude-là, qui a été faite l'année passée, avant le COVID, on voyait que après une année, les iPhones en général perdaient 25% de leur valeur et que après ça, ça dégringolait. Les Samsung, c'est 35% de leur valeur. Les Google Phone, je suis vraiment surpris, 50% de leur valeur la première année. Et le pire, c'est 60% avec les appareils Motorola. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir peut-être évaluer. Ce besoin, vous aviez besoin de changer votre téléphone, vous n'avez pas le choix d'en avoir un, et puis que vous n'avez plus les moyens. Peut-être regarder dans certains appareils Motorola qui vont bien, certains Pixel qui vont très, très bien, qui sont totalement sécuritaires et qui sont vraiment à la moitié du prix. Peut-être qu'en cette période où on va faire plus attention à nos dépenses, ça pourrait être assez intéressant d'évaluer ça ou d'aller voir dans l'article lesquels appareils. J'ai hésité entre la virgule, fait que ça fait un petit blanc, je suis désolé. Je vous parle d'une application que j'ai découvert. Google fait toutes sortes d'applications, même Apple fait toutes sortes d'applications qui sont totalement gratuites et qui vont très bien. Apple, j'ai découvert dernièrement Texas Hold'em. Je sais pas pourquoi, je l'avais pas découvert avant. Pour ceux qui aiment jouer aux cartes, Vous allez pouvoir jouer. C'est une application disponible sur l'Apple Store qui est faite par Apple et qui est assez surprenamment intéressante. On voit des humains, des vrais humains. C'est pas des représentations 3D pour jouer au Texas Hold'em. J'ai aussi une application qui s'appelle Toontastic. Toontastic, c'est fait par Google. Ça permet de créer un univers pour vos enfants en sélectionnant des décors, des personnages. Vous pouvez même créer votre propre décor, créer votre propre personnage, et les enfants peuvent après ça se créer des histoires et les enregistrer en vidéo et les envoyer à leurs amis. Alors franchement, super bien fait de la part de Google. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, vous. Toontastic, vraiment chouette pour les enfants qui veulent créer des choses en toute simplicité, qui peuvent être assez évoluées quand même. Ce que vous pouvez faire là-dedans, je vous le recommande assez chaudement, Toontastic. Si j'ai découvert ça, je l'ai acheté dernièrement, $1, 1 euro, je pense, à peu près, ça coûte pas très très cher. Ça s'appelle Pixiu, P-I-C-S-E-W. C'est une application qui vous permet de faire des screenshots. Alors, vous allez me dire, Mathieu, je suis capable de faire des screenshots, des imprimés écrans sur mon téléphone sans aucun souci. Moi, je vous répondrai que malheureusement, des fois, il faut retoucher ça pour que le screenshot apparaisse bien ou qu'on ait à peu près toute la page qu'on veut avoir. Pixiu vous permet, à partir d'imprimés écrans que vous allez faire sur votre iPhone, 2-3 imprimés écrans, exemple, si vous avez une liste sur 3 ou 4 scrolls qui descend, là vous allez pouvoir toutes les rassembler ensemble super facilement. L'outil qui est là va vraiment bien et vous pouvez copier-coller toutes vos images et les découper, les assembler d'une manière très très simple. Elle a été nommée la meilleure application 2017 sur le App Store. Je l'avais pas vu aller, pas sur l'App Store, sur le Spy qui est en Chine si je ne m'abuse, et qui est vraiment assez chouette. Elle est disponible sur iPhone, iPad, et quand vous l'achetez, vous pouvez l'utiliser dans ces deux appareils-là. Usage, cas d'usage super intéressant. Quand vous faites un screenshot d'une conversation, exemple sur Messenger, vous savez, un chat, faut faire plusieurs screenshots. Là, vous allez pouvoir toutes les réunir ensemble, toutes les coller pour faire une image, pour voir toute la séquence d'une discussion. Ça, c'est un cas d'usage qui peut être intéressant si vous voulez faire ce genre d'imprimé écran là. Alors, c'est payant, je vous l'ai déjà dit, je pense. On va passer tout de suite à la partie économie. Petite nouveauté, on va y aller rapidement. Hydro-Québec, c'est une société d'État ici, c'est une compagnie, c'est une société d'État qui s'occupe de nous fournir en électricité. 97%, je pense, ou 96% de notre électricité ici au Québec est faite à partir d'hydroélectricité, en tous les cas, est renouvelable. Et Hydro-Québec a conclu une entente avec le fabricant français DroneVolt pour adapter ses technologies afin de procéder à des inspections et des entretiens sur des réseaux électriques en ligne un peu partout au Québec. Dans le cadre de cette entente, les drones qui sont mis au point vont être vendus après aux deux entreprises et pourront ensuite être commercialisés. Alors ça va être des drones assez gros, c'est un 2 mètres par 2 mètres, on va dire ça comme ça, pour vérifier l'état des lignes électriques et automatiser tout ça avec de l'intelligence artificielle pour voir s'il y a des problèmes ou des bobos qui peuvent apparaître. Des tâches qui sont assez des fois ardues pour les humains et qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée en 2020. Alors vive l'automatisation et vive l'utilisation des humains à des choses à valeur ajoutée. Gadget, on va parler de DETI. Qu'est-ce que c'est DETI 2.0, DETI? C'est un fer à repasser. En fait, c'est une base sur laquelle vous pouvez mettre un fer à repasser ou une espèce de petit rasoir, vous savez, à peluche pour la laine, qui sert aussi d'appareil pour brancher des téléphones en prise USB. Alors, c'est assez ingénieux pour les gens qui aiment voyager ou ceux qui vont un jour revoyager, on va dire ça comme ça. Pour des voyages d'affaires, c'est très petit, ça fait 3 appareils en un, et vous pouvez dissimuler facilement dans n'importe quelle petite valise parce que ça fait très très bien le travail. Je vous ai mis le lien vers le YouTube pour voir ce petit truc là. C'est assez chouette. Et peut-être qu'un jour, quand on pourra voyager, ou si un jour on voyage, ça pourrait être assez utile. On le disait hein, tantôt, le fait d'être confiné va peut-être nous donner nous montre qu'on est plus à la merci de certaines entreprises qui volent nos données. Et c'est exactement ce que dit le PDG de Reddit, qui est assez catégorique hein, sur TikTok, qui dit que c'est un parasite. Le grand patron de cofondateur de Reddit ne mange pas ses mots quand il vient le temps de parler de TikTok, le réseau social de l'heure auprès des plus jeunes internautes. Lors d'une allocution, Stephen Hoffman a qualifié TikTok de fondamentalement parasitique. Vu sa façon dont il collecte les données de ses utilisateurs, je le dis à tout le monde, n'installez surtout pas cette application sur votre téléphone, a-t-il ajouté. Alors, c'est le premier à sonner l'alarme. C'est pas le premier à sonner l'alarme sur TikTok. Malheureusement, le contexte de confinement, en ce moment fait que les Américains, beaucoup de politiciens vont maintenant envoyer leur publicité, en tout cas, essayer de rejoindre les jeunes sur TikTok. Ce faisant, ben, donne beaucoup de data qui pourrait être stratégique, qui pourrait être de l'ordre de la sécurité nationale des fois. Alors, c'est spécial, même si l'entreprise TikTok se défend, ça nous rappelle un vague souvenir de d'autres dérives qui ont pu arriver. Allons-nous voir un jour un problème avec TikTok? Ouais, fort probable. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, je l'avais mis en note, mais je vous le redis encore. Facebook et Google sont de plus en plus des agences de surveillance que d'autres choses. Les réseaux sociaux ou moteurs de recherche, ben, c'est pas vraiment ça, du moins pas aux yeux de la société web Zoho s'occupe de faire du cloud, qui s'occupe de faire des solutions de bureautique. Et même de sécurité, de messagerie. Le président de Zoho qualifie carrément les deux géants californiens de la société de sociétés de surveillance et il leur demande de revoir leurs pratiques sur la façon dont ils gèrent les données de leurs utilisateurs face à leur vie personnelle. Ils pistent constamment leurs utilisateurs et les paient pour leurs services gratuits en cédant. Et les utilisateurs ne paient pas en cédant leur vie privée contre la rétribution d'outils. Quand on comprend ça, ben il faut faire un petit peu plus attention. Et fait très très intéressant, on a été content de voir ça dernièrement, mais Google a mis en ligne des données d'utilisation de la part de leurs applications de géolocalisation à travers les pays pour voir si les pays ou tous les cas les habitants de ces pays-là étaient vraiment ou réellement confinés. Et ben on a vu que certains pays étaient meilleurs que d'autres, mais on s'est juste comme pas questionné que Google avait toutes ces données-là pour surveiller les gens. Alors, ça peut être inquiétant. Faut falloir les avoir à l'œil parce que dans ces temps où il faut faire un peu plus attention, il pourrait avoir des dérives, tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je veux pas en dire plus, notamment sur Facebook, je trouve ignoble par moment. Théorie du complot, j'ai dans mes notes d'émission un tweet qui a été fait par, si je ne m'abuse, France 2, ouais c'est ça, qui interroge une personne qui parle de la théorie du complot, en fait un platiste, on les appelle comme ça, c'est des gens qui pensent que la Terre est plate, et je vous parle de ça pas pour vous dire que vous parlez de platiste, non, je vous parle surtout de ça pour vous parler de théorie du complot. Il y en a beaucoup qui pullulent en ce moment, ces temps de COVID, comme de quoi que ce serait le virus aurait été inventé par tel ou tel État, que c'est fait pour contrôler ou pour mettre en dehors Donald Trump. En tout cas, toutes sortes de théories du complot, les platistes en font partie. Il y en a toutes sortes en ce moment. Et je voulais juste vous montrer des petits trucs qui ont été faits par un organisme pour voir dans les faits si c'est vraiment des théories du complot. Généralement, ça implique des groupes secrets très puissants qui agissent dans l'ombre. Exemple, les reptiliens, les Illuminati, la NASA, toutes les francs-maçons, toutes ces théories du complot. Là, c'est toujours des gens très puissants, mais dans l'ombre. Hein, quand vous voyez, pour débusquer là, des théories du complot, c'est un peu ça. Ces groupes emploient de très grands nombres un très grand nombre de gens placés dans des endroits stratégiques dans tous les secteurs de la société, les gouvernements, les médias, la police, les universités, afin que le secret puisse rester secret. Alors, quand on parle de secret, généralement, puis de groupes très puissants, ça ressemble beaucoup à des théories du complot. Elles s'opposent aux versions officielles, hein. Toujours la même chose, si c'est pas la même version officielle des compagnies, des organismes ou des gouvernements, ben ça ressemble à quelque chose qui peut ressembler à une théorie du complot. Elles expliquent un événement par une seule cause, hein, le complot est dû à cette cause-là, alors c'est souvent ça les complotistes. Elles sont impossibles à refuter, hein. Les gens ont beaucoup d'arguments, ils peuvent te le prouver par A plus B, ils sont très 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 farouches par rapport à ces théories-là, et sont faites de toutes sortes d'amalgames. Par exemple, on sait que le gouvernement américain a menti pour la guerre en Irak, donc il a menti pour des missions lunaires. Hein, on prend un mensonge pour comme levier pour en dire que ben notre théorie finalement est vraie. Les défenseurs de ces théories peuvent au fil du temps développer des connaissances encyclopédiques, des arguments favorisant des théories même si aucun ne prouve leur validité. J'ai été regarder lire un peu sur les platistes parce que c'est ça qui m'intéressait avant le COVID-19, quand j'ai préparé mes notes, et c'était hallucinant, là. Je faisais, mais mon Dieu, ça a l'air des gens très très intelligents. Effectivement, c'est des personnes excessivement intelligentes, et faut pas rire d'eux. Alors, comment on agit face à un ami qui a une théorie du complot ou même des gens de sa famille? Faut pas les ridiculiser d'emblée, hein. C'est vos amis, c'est votre famille, ils s'en sont pas stupides pour autant, faut les écouter. Alors ça, c'est le deuxième point. Faut, un, vous ne les ridiculisez pas, deux, vous tentez de comprendre le raisonnement en les questionnant. Souvent, la croyance en une théorie du complot fait partie d'un scepticisme large face à des médias ou du gouvernement. Fait que ça arrive souvent. Alors, faut tenter de les comprendre. On va les interroger sur ce qui pourrait les convaincre de cette théorie erronée pour comprendre pourquoi ils croient en ça. Essayez de cette façon de trouver un consensus entre lui et vous. Quelque chose qui serait possible de vérifier en commun pour valider que c'est vraiment une théorie du complot. Par exemple, puisqu'on sait que ces arguments ne sont pas convaincants pour vous, essayez de trouver avec lui s'il n'y aurait pas toutes sortes dans ses lectures des preuves tangibles, solides, irréfutables, qui pourraient satisfaire le scepticisme que vous avez, le sceptique que vous êtes. J'ai trouvé cette information sur 30 secondes avant d'y croire. C'est un site super intéressant. Je vous conseille, maintenant que vous avez un petit peu de temps, sur comment on trouve qu'est-ce qui est une fausse nouvelle, qu'est-ce qui est une théorie du complot, pourquoi on invente de fausses nouvelles, les impacts des fausses nouvelles, ça a des impacts sur la santé publique, ceux qui croient pas au vaccin, ça a des impacts, le rôle des médias qui ont par rapport à ça, il y a des médias qui relayent ces conneries-là, aux États-Unis énormément, Fox News, ici au Québec, il y a certains médias, même des fois des hallucinations, là. Journal de Québec, Journal de Montréal, qui vont dans la vitesse et qui font pas attention à ce qu'ils publient. Alors, c'est super intéressant. 30 secondes avant d'y croire, je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour là-dessus et de valider comment vous pourriez faire pour vous aider vos amis, en tous les cas, avoir des arguments ou en tous les cas, essayer de plus comprendre vos amis qui ont des théories du complot. Écologie. Les services comme Uber, Lyft, qui sont assez populaires, qui étaient assez populaires avant le confinement. C'est fou tout ce que je vous dis qui ont peut-être plus lieu d'être maintenant, mais bref. Ces services qui sont simples, qui sont rapides, seraient finalement beaucoup plus polluants qu'un taxi traditionnel. La raison, elle est simple. Les chauffeurs doivent constamment se déplacer entre chacune de leurs courses sur des distances parfois presque aussi importantes que celles d'un trajet avec juste un passager. Alors, c'est un article qui vient du LA Times. Je trouve ça assez intéressant, notamment par exemple à Québec. On n'a pas beaucoup de chauffeurs Uber. Et je vois très bien, en fait, je le vois souvent que le chauffeur Uber vient prendre peut-être 10-15 kilomètres avant d'arriver à mon appel. Bon, nous, à Québec, ça va bien, il y a beaucoup d'autoroutes, mais ça fait quand même un déplacement seul d'une personne dans un véhicule. C'est quelque chose qu'il faut regarder avec un œil, ou en tous les cas, essayer d'avoir plus d'algorithmes intelligents pour essayer de repérer les endroits ou pour limiter que les chauffeurs se déplacent trop. Eh oui, vous avez manqué de papier cul, vous, chez vous? Ben, ça a été partout pareil. Les gens ont manqué de papier toilette. Ils ont, pour une raison assez obscure, à tout le moins, ils ont pensé que c'était une gastro-entérite ou que ça allait sortir d'à peu près tous les bouts. Et ils se sont jetés sur le papier toilette. Mais quand la nature ayant horreur du vide, ça fait plaisir à d'autres types de fabricants. Les ventes de bidets sont en forte hausse en ce moment. Ce serait l'effet le plus inusité de la pandémie. Après avoir provoqué un achat massif de papier toilette, le coronavirus génère un mouvement similaire du côté des bidets. Alors, je vous ai mis l'article, c'est sur Business Insider. Si vous avez des petits sous à investir, peut-être ce serait dans des solutions comme ça qui sont plus écologiques en fait que le papier toilette. Et qui, il y a certains modules aussi, hein, j'ai entendu parler, qu'on peut acheter en ligne pour adapter une toilette traditionnelle et la transformer en bidet. Ça peut peut-être être une solution aussi à regarder. Je trouvais ça intéressant de vous le partager. Bref, à vous de voir ce que vous pensez du bidet, mais en tous les cas, c'est en forte probabilité, augmentation de vente. On est à la partie réflexion, un très beau texte que ma sœur a partagé dans les médias sociaux, et puis je vais vous le lire. Alors, je vais vous en lire une partie en fait, ça s'appelle « Un jour, je te raconterai ». On va commencer le texte « Un jour, je te raconterai » qui vient de Annick Claveau. Vraiment, ça s'adresse les poils sur les bras, on va dire ça comme ça, la zone de la chair de poule, pour ceux qui comprennent plus cette expression-là. À toi qui naîtras dans 5 ans, un jour, je te raconterai l'année où tout s'est écroulé. Un peu comme la fois où le grand-père d'un ami m'avait raconté comment il avait vécu réellement le débarquement de Normandie. Je te raconterai émotivement, avec un tremblement dans la voix, comment un jour la Terre nous a violemment dit « c'est assez ». On sera assis, quelque part dans la nature, en pique-nique peut-être, ou autour d'un feu en vacances. Tu viendras me rejoindre en m'offrant un thé glacé, et puis je te raconterai l'histoire que tu auras lue dans les cahiers d'école, dans les livres, tout comme moi. Petit, j'avais lu sur le scorbut et la grippe espagnole. Je te dirais qu'un jour, un virus est apparu dans notre continent et que le lendemain, il était partout et qu'ensuite, tout a changé. Je t'expliquerai qu'à cette époque, les gens étaient si pressés que les parents voyaient à peine leurs enfants, que les personnes âgées n'étaient plus visitées par leur famille et que les mots les plus importants étaient bonification, profit, rendement. Je te dirai combien nous étions prisonniers de cette cellule que nous avions nous-mêmes construite. Je te raconterai que les gens consommaient tellement que pour respecter leur réalité budgétaire, ils devaient travailler des heures supplémentaires, qu'à cette époque, nous voulions posséder beaucoup plus que nos besoins, oubliant chaque fois l'essentiel, tournant le dos à la simplicité volontaire. C'était l'heure de la pollution, de la surconsommation, l'heure où les tours à condos frôlaient le ciel, où l'heure des pointes étaient continuelles, l'heure où, dans les métros, les gens s'entassaient sans relâche, pris dans une routine axée sur le travail à tout prix, pour arriver à se payer leur semaine par année. Un peu de répit. Je te dirai combien nous étions prisonniers de la cellule que nous avions nous-mêmes construite. Je te dirai que le rassemblement de famille était rare, que les rassemblements de famille étaient rares parce que nous ne pensions plus prendre le temps. Que Noël était devenu un fardeau, que les gens étaient devenus victimes d'un écran, confinés dans un réseau virtuel, dans un monde irréel, dans lequel les relations passaient par de moins en moins de mots. Je t'expliquerai pourquoi tout a changé. Pendant la crise, tous ont dû se cloîtrer dans une demeure. Fréquenter les écoles était interdit, les pays étaient fermés, les frontières aussi. Les commerces ont fermé à leur tour, laissant des milliers de gens sans revenus. Les contacts humains sont devenus défendus. Je me souviens combien la Terre a violemment dit « c'est assez », nous forçant à l'écouter. Je vous laisserai écouter le reste du texte. Je le lis puis j'ai encore des frissons. Vraiment beau, ça fait réfléchir. Je l'ai partagé sur Twitter. Certains cynistes, il y a eu un cynisme ambiant qui disait, ben, l'humain changera pas. Je suis un peu plus positif. Je pense que l'humain est capable de changer. Moi, je pense que ça prend une crise pour changer. Je pense qu'il va changer. Peut-être pas noir ou blanc. Peut-être qu'il va y avoir certaines nuances, mais ça pourrait être très, très important de se rappeler de ce qu'on est en train de vivre, là. Je vais vous finir ça avec une quote, une citation de Ram Dass. Plus vous devenez silencieux, plus vous entendez. C'est une période où on peut être silencieux, c'est une période où on peut entendre, où on va entendre, où on va comprendre. Bref, je vous laisse là-dessus. Et je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre dans les médias sociaux, Twitter, Facebook ou par courriel sur le site www.eclectique.info. Vous pouvez aller aussi sur la plateforme Patreon. Je comprendrais très bien ces derniers temps où vous vouliez, vous puissiez pas le faire. Dans ces circonstances, je vous demanderai juste un petit partage dans les médias sociaux. Et on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao.